Transcontinent Queer, des nouvelles d'un bout à l'autre du Canada.
Bon, plutôt Transatlant Queer, ça arrive. Salut Christophe Gérard, conjoint à Méru en France. Mais il y a des trains qui passent chez vous, hein, c'est vrai?
Ouais, alors mon train ce soir avait du retard pour entrer chez moi, mais il est passé.
Il est passé. De toute façon, il est très tard chez toi. J'imagine que tu as eu le temps de dîner, comme vous dites chez vous. Alors, pour commencer, Christophe, parlons d'une décision de la Cour européenne des droits de l'homme concernant la Russie.
Tout à fait, hein. C'est une décision qui est importante dans le climat actuel. La Cour européenne des droits de l'homme a condamné la Russie pour violation à la liberté d'expression, donnant ainsi raison à Cyrus, qui avait porté plainte et qui était accusé de promouvoir l'homosexualité auprès de mineurs sur Internet.
Alors, peux-tu nous dire un peu plus sur l'affaire là, qui est à l'origine de cette décision?
Oui, alors les Cyrus en question sont soit propriétaires ou administrateurs de sites internet ou de groupes sur les réseaux sociaux, parmi lesquels le site www.gay.ru, qui est l'un des sites les plus importants pour la communauté queer en Russie. Donc, ils ont été tous condamnés pour infraction administrative et leurs sites et pages ont été bloqués parce qu'ils parlaient d'homosexualité. Donc, comme j'ai déjà précisé ici dans une chronique précédente, la promotion des relations sexuelles jugées non traditionnelles auprès de mineurs était considérée comme une infraction au pays de Poutine.
Alors maintenant, on a décidé que les relations homosexuelles étaient non traditionnelles. Bon, alors, on reviendra là-dessus. Qui de la Cour européenne, que dit la Cour européenne donc des droits de l'homme sur cette question?
Elle estime que les sanctions visaient à limiter l'accès aux plus jeunes à des informations qui décrivent les relations entre personnes de même sexe comme étant justement équivalente à celle des relations homosexuelles, est une atteinte à la liberté.
Et sur quoi est basé cet arrêt?
Alors, il se base sur un article, hein, sur des mesures qui ont été prises et qui vont à l'encontre de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme qui est relative à la libération, pardon, la liberté d'expression. Donc, par ailleurs, elle a condamné également la Russie pour violation de l'article 8 qui concerne, lui, le respect de la vie privée et familiale parce que les services de sécurité avaient collecté des données d'une utilisatrice sur le réseau VKontakte, une utilisatrice qui était l'une des plaignantes.
Et ce n'est pas tout.
Non. Alors, elle a pris un autre arrêté, un arrêté indistinct, dans lequel elle condamne la Russie pour l'inaction des autorités face à la divulgation sur les réseaux sociaux de données personnelles relatives à l'orientation sexuelle. Et elle se base là-dessus sur des faits et des requêtes de trois ressortissants russes, un couple qui s'est marié hors du pays et qui vit maintenant à Moscou, et un troisième plaignant qui, lui, a quitté la Russie avec son conjoint. Il vit maintenant en Europe en tant que réfugié. Donc, la Russie a été reconnue coupable de la violation de l'article 14 sur l'interdiction de la discrimination, combinée à l'article 8 que j'évoquais tout à l'heure.
Là, ce qui est étonnant de voir dans tout ça, c'est que la Cour européenne des droits de l'homme condamne la Russie, mais pourtant la Russie ne fait pas partie de l'Union européenne.
Non. Par contre, la Cour européenne des droits de l'homme, elle est chargée de valider et de veiller au respect de la Convention européenne des droits de l'homme dans les pays qui l'ont signée. Et la Russie en faisait partie. Donc, certes, elle a été exclue du Conseil de l'Europe en mars 2022 parce qu'elle avait envahi l'Ukraine et elle fait plus partie de la Convention depuis septembre 2022. Mais elle reste comptable des violations qui ont été prises avant cette date. Et la loi propagande qui est à l'origine des condamnations de ces personnes date de 2013, donc bien avant 2022.
Bon, maintenant, quelle sorte d'impact que cette politique, ça peut avoir sur la politique anti-LGBT menée en Russie?
Bah, on va pas se leurrer, hein. Ça va avoir aucun impact sur le comportement de Poutine. Il est bien au-dessus de tout ça. Par contre, ça peut avoir un impact sur les pays de l'Union européenne qui seraient ont tenté de prendre des mesures qui vont dans ce sens-là.
Oui, il faut dire que la tentation semble forte ces jours-ci, mais bon, ça c'est autre chose. Parlant d'Europe, le gouvernement slovaque a déposé une proposition visant à restreindre les droits des personnes LGBTQIA+.
Oui, ça va dans le sens de ce que je venais de dire, hein. Concrètement, sur l'axe Trump-Poutine, on connaissait déjà Giorgia Meloni en Italie. Je sais que tu l'apprécies tout
Ah,
particulièrement.
adorable personne, oui.
Mais tout à fait. Une autre personne tout aussi adorable, Viktor Orban
Ah
en
oui.
Hongrie.
Oui, un petit ourson.
Voilà, et maintenant il va falloir compter avec le Premier ministre slovaque qui s'appelle Robert Fico. Alors si je te dis, nous avons deux sexes, masculin et féminin, à qui tu penses?
Ben, moi, ça me fait penser à Donald Trump.
Ouais, ben c'est pas du Donald Trump dans le texte, hein, c'est une déclaration de Robert Fico.
Bon, alors, c'est donc cette quelle est la proposition que fait le gouvernement slovaque justement sur cette question?
En fait, le gouvernement a publié une proposition d'amendement à la Constitution qui vise à restreindre les droits pour les couples de même sexe et durcir également le changement de genre. Donc, pour ce faire, cet amendement en fait, ferait primer le droit national, donc le droit slovaque, sur le droit européen, donc la souveraineté du pays sur les questions d'éthique et de culture primerait sur le droit européen. Donc, pour justifier.
Oups, on a perdu ton son. Il faudrait que tu rallumes ton micro. Faut que tu rallumes ton micro, Christophe. La petite barre en bas, audio. Voilà, on compte.
Désolé, fausse manip. Donc,
Ouais.
je disais, pour justifier de cette décision, Robert Fico invoque les traditions et l'héritage culturel et spirituel des ancêtres slovaques pour dresser un barrage constitutionnel face au progressisme et donc à rétablir le bon sens. Donc, pour lui, autre mesure, le sexe ne peut être modifié que pour des raisons sérieuses, selon des modalités qui seraient fixées par la loi. Alors, on se demande bien lesquelles, hein. Donc, de plus, il réserve l'adoption d'enfants au seul couple marié. On s'en doute hein, pour que le mariage pour les personnes de même sexe, ce n'est pas autorisé en Slovaquie.
Il va même plus loin, là.
Ouais, tout à fait, hein, puisqu'il demande aux écoles d'enseigner uniquement ce qui est conforme à la Constitution.
Bon, c'est pas la première fois qu'il prend ce type de décision.
Non, il avait déjà fait un premier mandat en 2014. Et est-ce qu'il est nécessaire de le préciser? Il est nationaliste. Hein. Et donc, il a fait inscrire dans la Constitution que le mariage est une union exclusive entre un homme et une femme. Et il avait également organisé un référendum pour faire barrage au mariage pour tous. Malheureusement pour lui, hein, ce référendum a été invalidé, faute de participation nécessaire. Alors le gouvernement souverainiste n'en est pas à son coup d'État et continue, hein, puisque récemment, il a annoncé la fin des subventions aux associations de défense des droits LGBTQIA+. Dans le même sens, et ça montre à quel point le gouvernement est extrêmement sympathique, une ministre a dénoncé une idéologie, en parlant bien évidemment de la communauté LGBT, qui mène à une extinction de la race blanche. Donc, pour rappel, hein, je ne sais pas si vous en aviez eu, vous, écho au Québec, mais en 2022, deux hommes avaient été assassinés dans un bar gay de Bratislava, la capitale, par le fils d'un membre d'un parti d'extrême droite.
Ouais, ça va bien, hein, mais qu'est-ce qui va se passer maintenant?
Bah, en fait, la proposition a été mise en ligne sur le site du gouvernement. Elle devrait faire l'objet d'un débat public pendant un mois avant un éventuel vote au Parlement. Alors, selon Martin Mako, qui est directeur de l'ONG Initiavita Inalco, qui a été interrogé par l'AFP, cette proposition, si elle était acceptée, introduirait de nouveaux obstacles dans le traitement de transition des personnes transgenres et elle cimenterait également dans la loi fondamentale, donc la Constitution, des inégalités qui ciblent les couples de même sexe. Cela serait un premier pas éloignant la Slovaquie de l'Union européenne. Pour lui, en fait, cette initiative a surtout pour but de détourner une crise politique qui traverse actuellement la Slovaquie. Ce qu'il faut savoir, c'est que la coalition menée par Fico subit de pressions énormes de la part des Slovaques, hein, qui manifestent massivement pour défendre la démocratie et rejeter en masse le rapprochement opéré avec la Russie. D'ailleurs, hein, récemment, c'était vendredi, c'est près de 40 000 personnes qui ont défilé à Bratislava, plusieurs milliers d'autres dans 40 villes du pays contre Robert Fico.
Que peut faire l'Europe face à cette proposition d'amendement?
Ben, comme on en a déjà parlé, elle peut faire valoir le droit européen. En 2021, pour la Hongrie, qui a fait voter une loi similaire qui interdisait d'évoquer l'homosexualité face aux mineurs, avait fait l'objet d'une procédure d'infraction de l'Union européenne.
C'est une valeur symbolique ou ça peut avoir des répercussions réelles, ce genre de procédure d'infraction?
Ça peut avoir des répercussions réelles puisque le droit européen prime sur le droit national. Sur toutes ces questions.
D'accord. Bon, on revient en France maintenant. Le Conseil d'État a rejeté l'autodétermination de genre.
Tout à fait. Alors, la plus haute autorité juridique administrative a rejeté en effet un recours d'associations comme Stop Homophobie, Mousse, Adeos ou Acceptesté, qui réclamaient la déjudiciarisation du changement de genre à l'état civil. Donc, concrètement, elle demandait l'annulation de deux circulaires de 2017 qui concernaient le changement de genre et d'état de prénom à l'état civil pour les personnes trans. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement en France, une personne transgenre doit passer par un processus judiciaire assez important de façon à changer d'état civil. Donc, il y a bien une loi en 2016 qui a été votée et qui ne les oblige plus à subir une stérilisation médicale pour changer de genre. Toutefois, il leur est toujours demandé de démontrer que leur sexe à l'état civil ne correspond pas à leur identité de genre.
Ça signifie
Donc,
quoi concrètement?
Cette démonstration, elle a des contours flous, hein, parce qu'elle se base sur un faisceau d'indices. Donc, on demande notamment aux personnes trans de se présenter publiquement comme appartenant au sexe revendiqué, de produire des témoignages de leurs proches ou encore d'avoir effectué éventuellement un changement de prénom en mairie. Alors, selon les associations, cette démonstration discrimine les personnes qui n'auraient pas ce qu'on appelle le bon passing, c'est-à-dire l'apparence physique qui correspondrait totalement et parfaitement au stéréotype du genre auquel elles s'identifient. Par exemple, la pilosité faciale pour une femme trans.
Oh, wow. Fait que un pas en avant, deux pas en arrière. Qu'est-ce que c'est pour dénoncer cette obligation de passing que des associations ont fait ce recours devant le Conseil d'État?
Tout à fait, hein. Et suivant les recommandations et les conclusions du rapporteur public, le Conseil d'État donc a décidé de rejeter ce recours en estimant entre autres que les éléments qui étaient critiqués n'étaient pas définis par les deux circulaires, mais par la loi en elle-même.
Bon, il y a quand même du positif là, dans cette annonce.
Ouais, puisque dans le texte publié pour justifier de leur décision, le Conseil d'État indique que l'apparence de la personne ou le jugement de tiers ne joue aucun rôle prépondérant dans la mise en œuvre des critères d'appréciation. Donc cette mention, elle réjouit l'avocat des associations, un maître des Houlières, puisqu'elle rappelle aux tribunaux que le changement de genre n'est pas censé s'opérer sur des bases physiques. Donc il a déclaré qu'il ne s'attendait pas à ce que le Conseil d'État aille aussi loin. Qu'ils ont été écoutés et reconnus pour certaines situations concrètes. Donc, ce sont des arguments qui pourraient s'opposer aux tribunaux qui formuleraient notamment des demandes fondées sur l'apparence.
Juste pour que je comprenne bien maintenant, c'est qu'on ne demande plus aux gens de se présenter avec une apparence du sexe auquel il ou elle ou elle s'identifie. On leur demande simplement de faire une déclaration comme de quoi, oui, moi, je m'identifie comme homme ou femme ou non-binaire, c'est ça?
C'est ça, en fait, c'est le but de cette manœuvre, c'est ce qu'on appelle l'autodétermination de genre, c'est-à-dire ben, tu restes maître ou maîtresse de ton destin et de ce que tu es. Donc
D'accord.
c'est à toi de déterminer du genre auquel tu t'identifies et ce qui justifie ton changement d'état civil,
Bon.
donc sur ton genre et ton prénom.
Donc, à vue de nez, pour moi, présentement, est-ce que cette décision, ben, ça semblerait que ça pourrait satisfaire les associations, tu crois?
Bah, en tout cas, ce que la décision qui a été prise par le Conseil d'État, pas vraiment, hein, si on en juge par la réaction de Maxime Margaret Loiry, qui est chef du pôle des transidentités au sein de l'association Transhomophobie, pardon, Stop Homophobie, et également présidente de diversité sociale. Elle estime que le Conseil d'État confirme tout de même la méthode de ce que je disais tout à l'heure, hein, ce faisceau d'indices, ce qui continuerait de rendre très difficile le parcours des personnes trans qui n'ont pas le bon passing. De plus, elle estime que ben, cette décision, ça n'est qu'un coup d'épée dans l'eau. Elle rappelle également, et ça c'est vrai, hein, il existe des inégalités de traitement en fonction des juridictions, à savoir que d'une région à l'autre et d'un tribunal à l'autre, les délais des procédures et les pièces à fournir peuvent être différentes.
Bon, qu'est-ce que peuvent faire les associations maintenant?
Ben, se tourner vers l'Europe, encore une fois. Pour eux, le combat continue et ça va continuer devant la Cour européenne des droits de l'homme, dont je parlais tout à l'heure. Donc, comme le dit Maître des Houlières, en fait, le but, c'est vraiment l'autodétermination de genre à l'état civil. Et il dit, comment peut-on imaginer que des magistrats puissent se prononcer sur des caractéristiques aussi intimes que le genre? Donc, il a noté, hein, que certains élus du Nouveau Front Populaire ont déposé une proposition qui va en faveur de cette autodétermination fin novembre à l'Assemblée. proposition qui n'a toujours pas été acceptée et il est fort peu probable que ça le soit, hein, dans la mesure où on est dans une instabilité politique assez importante ici, comme tu le sais.
Donc là maintenant, comme on s'est dit depuis le début de l'année, on va essayer de temps à autre d'avoir un peu d'autre chose que des nouvelles dures, des nouvelles peut-être mauvaises. On va parler de culture.
Ouais, je reviens à mes premières amours, hein, la culture. Alors, quand une drag queen rend hommage à une des reines de la nuit. On a appris la semaine dernière que Hugo Bardin, alors, il est connu sous le nom de Paloma, hein, c'est lui qui a remporté la première édition, de Drag Race France ici en France, travaillait sur son premier long métrage, dont le tournage devrait commencer, dès septembre prochain.
Alors, quel sera le sujet du film?
Ben, c'est un biopic qui est consacré à Bambi, une artiste transgenre qui a fait les belles heures des nuits parisiennes dans les années 50 et 60, en se produisant notamment dans le célèbre cabaret de Pigalle qui s'appelle Madame Arthur. Donc c'est une personnalité assez singulière, hein, puisque elle a mené sa carrière des années 50 à la fin des années 60 et elle a décidé d'abandonner la scène totalement pour l'enseignement. Donc elle a repris son nom, Marie-Pierre Pruvot, et elle est devenue professeure de lettres pendant près de 25 ans.
Alors, comment est né ce projet?
Ben, c'est né d'une rencontre entre Hugo Bardin et Bambi, et cette dernière lui a raconté des tonnes d'anecdotes sur sa vie d'artiste, et donc artiste dans le Paris des années 50, et ça semblait évident pour Hugo que ça ferait un excellent scénario.
Et est-ce qu'on... Oui, excuse-moi.
Ouais, alors le film évoquerait, hein, essentiellement la carrière de Bambi, donc des années 50, de 1950 à 1970.
Et est-ce qu'on sait quelle actrice aura ou incarnera le Bambi?
Non, pour l'instant, il n'y a aucun nom qui a été communiqué. Cependant, Hugo Bardin a bien précisé qu'il lui semblait important que ce rôle soit tenu par une comédienne transgenre.
Il nous reste un petit peu de temps, puisqu'on parle de Drag Queen, de Paloma, de Drag Race France. Est-ce qu'on a des nouvelles sur la prochaine saison? Est-ce que tu en as eu?
Oui, tout à fait. Alors, la prochaine saison, ce sera une saison All-Star.
Ah oui.
Donc, avec des drag queens qui ont participé sur les 3 premières saisons. Alors, pour l'instant, le nom des participantes n'a pas encore filtré. J'ai pas plus d'informations. Je sais juste qu'il y a une énorme tournée qui est prévue à l'issue de cette saison, un peu partout en France.
Et c'est prévu quand la prochaine saison? Je pense toujours à l'été chez vous, hein, c'est ça?
Ouais, ça tombe, sauf là, l'année dernière, puisqu'il y avait les Jeux Olympiques, mais ça tombe toujours à peu près à la période de la Marche de la Fierté en France, donc fin juin.
Bon, alors ça va être à suivre, effectivement. Et puis, on a encore juste un petit peu de temps. Tu m'as prêté un livre que j'ai beaucoup aimé, puis tu devrais m'en parler éventuellement. Juste le mentionner, qu'est-ce que c'est?
Alors, le livre que je t'ai prêté, c'est la bande dessinée, c'est ça?
Oui.
Ok, c'est une bande dessinée qui s'appelle Petite fille deviendra grand. Donc c'est un jeune homme qui s'appelle Louis Fégout qui a écrit ce livre. C'est une bande dessinée, un roman graphique qui parle de son parcours d'homme trans depuis son enfance jusqu'à sa transition. Il vivait en France et récemment il est arrivé chez vous
Oui,
puisqu'il vit à Gatineau.
puis je peux annoncer d'ores et déjà que nous allons le recevoir très bientôt à l'émission. Alors, je vais juste, c'est un petit peu la façon de faire un teaser, comme on dit en bon franglais. Christophe Gérard à Méru en France, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Mais je t'en prie, je te souhaite une bonne soirée, à très vite,
À
Denis
très
Martin.
vite.